Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour un nouveau numéro du débat BBC Afrique, Africa Radio, avec bien sûr Liliane Niacha pour Africa Radio à Paris. Bonjour Liliane.
Bonjour Saint-Ish, bienvenue à tous et à toutes.
Au menu de cette semaine, il le voulait, il est en passe de l'obtenir. Roch Marc Christian Caboret donne un coup KO selon les chiffres provisoires de la CENI, qui le donne vainqueur de la présidentielle du 22 novembre dernier avec près de 58% des voix. L'opposition burkinabé est-elle dans la désillusion? Les candidats de l'opposition qui tablaient sur un bilan du président sortant qu'ils qualifiaient de chaotique ont-ils péché par excès de confiance ou par erreur de stratégie? Et si le fauteuil présidentiel leur échappe, pourront-ils mieux se repositionner à l'Assemblée nationale et ainsi faire face au deuxième et dernier mandat Caboret? En attendant le dernier mot qui revient bien sûr au Conseil constitutionnel pour la validation des résultats, nous allons décrypter ce double scrutin burkinabé, présidentiel et législatif. Au Niger, quelles sont les cartes en main pour l'opposition à la présidentielle du 27 décembre prochain qui se tiendra sans le parti d'opposition, le Lumanafa? La candidature de Ama Amadou, candidat du parti, a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Qui donc pour mener cette opposition nigérienne qui, à un mois du scrutin, dénonce toujours la composition de la commission électorale? La méfiance est au beau fixe entre les opposants et la majorité au pouvoir. Et puis l'armée malienne de plus en plus représentée dans les sphères de l'État avec la nomination de militaires à des postes de gouverneurs des régions. Nouvelle stratégie de défense ou plutôt partage de gâteaux. En tout cas, le nouveau découpage et surtout les nouvelles nominations ne sont pas du goût des partis politiques qui y voient une nouvelle preuve de la volonté des militaires maliens de garder une mainmise sur le pays. Faux procès ou pas? Analyse et commentaires à suivre. Liliane, voici pour le menu, mais avant le débat, la présentation du panel avec vous.
Et il s'agit de Siaka Koulibaly, qui est notre grand témoin cette semaine. Il est analyste politique burkinabé en ligne de Ouagadougou. Monsieur Siaka Koulibaly, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait des études de droit et sciences politiques. Vous êtes auteur notamment de Coup d'État, légitimation et démocratie en Afrique. Vous êtes aussi activiste des droits humains et de la démocratie, acteur de la société civile au titre de secrétaire exécutif du réseau des organisations de la société civile pour le développement Réseaucide. Et vous êtes donc notre invité cette semaine. Deux journalistes nous accompagnent. Maimouna Diadio, journaliste et rédactrice en chef du groupe Média nigérien Tambara. Vous êtes en ligne de Niamey. Bonjour Maimouna.
Oui, bonjour.
Bonjour à Birama Fall, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Prétoire. Il est en ligne de Bamako. Senti, je ne sais pas si Birama est déjà avec nous.
Oui, Birama. Je suis en ligne.
Voilà pour le plateau, Senti.
Je salue tous vos auditeurs.
Bienvenue à vous.
Merci, merci.
Saint-Tige, notre premier sujet.
Nous allons y aller avec le premier sujet. Le coup KO de Roch Marc Christian Caboret en passe de se réaliser. S'il est validé par le Conseil constitutionnel, le président sortant au Burkina Faso est crédité de 57,87%. Il est suivi d'Eddy Kombo-Higo avec 15,48% et Zéphirin Diabré 12,46%. Les 10 autres candidats se partagent le reste du suffrage exprimé. Les candidats de l'opposition ont déclaré prendre acte de ces résultats et certains ont d'ailleurs présenté leurs félicitations au président sortant. Les résultats des législatives qui se sont tenues également ce 22 novembre, eux, sont attendus pour au plus tard ce dimanche. Pour rappel, le double scrutin s'est tenu dans un contexte d'insécurité tel que près de la moitié des électeurs n'a pas pu exprimer son choix. Quelques irrégularités ont été signalées par des observateurs nationaux et internationaux, mais qui ont affirmé qu'ils n'étaient pas de nature à entacher ce scrutin. Monsieur Siaka Koulibaly, analyste politique, vous êtes notre grand témoin. Je voudrais vous demander d'analyser déjà les premiers propos du président sortant. Après la proclamation des résultats, il a déclaré que le scrutin a été historique et qu'il a permis d'ancrer la démocratie burkinabé. Est-ce que vous le partagez?
Oui, cet aspect du discours du chef de l'État est conforme à la vérité dans la mesure où le Burkina Faso revient de loin après le soulèvement populaire de 2014 qui avait été considéré comme un risque majeur d'effondrement de l'État burkinabé. Donc le pays a pu se remettre sur ses pattes et a pu organiser des élections démocratiques en 2015. Et le fait de pouvoir organiser d'autres élections en 2020 sans violence du tout, c'est une marque que effectivement la démocratie est en train de s'ancrer. Nonobstant les difficultés qui ont émaillé l'élection du 22 novembre 2020.
Parmi ces difficultés, on peut parler de ces électeurs inscrits sur les listes électorales mais qui n'ont pas pu voter à cause de l'insécurité et aussi ce taux de participation de 50%, 50% simplement, alors qu'en 2015, il était de 60%. Est-ce que ça, c'est également une victoire du pays, selon vous ?
Non, c'est ce que je disais. J'ai dit le fait de pouvoir tenir les élections dans le calme, sans violence, c'est une victoire. Mais il y a d'autres aspects sur lesquels il faudrait revenir. Effectivement, on a été surpris du nombre des irrégularités qui ont émaillé le déroulement des opérations de vote dans la journée du dimanche 22 novembre, étant donné que le Burkina Faso disposait d'un dispositif électoral assez éprouvé, qui s'est amélioré au fil des temps et qui présentait quand même des garanties de fiabilité et de crédibilité. Donc on a été assez surpris de constater les difficultés matérielles d'organisation, et notamment le fichier électoral. Il y a un fichier électoral biométrique qui a été installé en 2012, supposé être unique et permanent, et n'est augmenté que par des révisions périodiques. Donc cela suppose que tous ceux qui sont inscrits depuis 2012, et ceux qui se sont inscrits en 2015 et ceux qui se sont inscrits en 2020 doivent tous se retrouver dans le fichier électoral. Même ceux qui se sont réinscrits une deuxième fois, le fichier est prévu dédoublonner les doubles inscriptions et effacer les inscriptions qui viennent après. Donc on s'est étonné de voir que beaucoup de électeurs...
Vous n'avez pas compris ces irrégularités
On n'a pas compris. Et... En plus de ça, il y a que beaucoup d'irrégularités également. Ils sont dans des violations du code électoral, le non-affichage des listes électorales à l'entrée des bureaux de vote et distribution inégale des électeurs dans les bureaux de vote, dans un même centre de vote. Et il y a des bureaux qui ont ouvert à jusqu'à 16h40.
Ces irrégularités dont vous parlez ne sont pas attribuées aux difficultés liées à l'insécurité. Rien à voir avec l'insécurité, le contexte actuel.
Ça n'a rien
actuel.
À voir. Ce que ces difficultés se sont déroulées dans la partie sud du territoire, étant donné que les autorités avaient pris soin de délimiter la zone où on n'aurait pas pu tenir des élections.
Monsieur Siaka Koulibaly, quand vous émettez ces réserves, vous dites que vous êtes étonné par ces irrégularités. Qu'est-ce que vous en déduisez? Est-ce que vous voulez dire qu'il y a eu peut-être une volonté de la part de la commission électorale d'organiser les choses de cette façon?
À l'heure actuelle, il y a des processus au niveau du procureur de la République qui est en train de vérifier la situation des irrégularités pour établir leur caractère de fraude ou pas. Parce que nous, à l'extérieur, nous parlons d'irrégularités. Ça ne peut devenir des fraudes que quand le procureur va attester cela. Donc, il faudrait attendre que la justice situe les responsabilités pour savoir pourquoi, par exemple, un matériel qui a été annoncé par le président de la CENI. Le matériel a été annoncé être disponible sur toutes les zones où les bureaux de vote seront ouverts 3 jours avant. Et le jour J, on constate que beaucoup de bureaux n'ont pas de matériel de vote. Même le procès verbal, qui est la pièce maîtresse du matériel électoral dans un bureau de vote, certains bureaux n'en avaient pas au démarrage.
Donc on ne parlerait pas, d'après vous, pour l'instant, d'une volonté manifeste de la part de la commission électorale de faire en sorte que ce matériel ne soit pas disponible.
Oui, à ce stade, comme ça a un caractère judiciaire, c'est pour ça que je me retiens de ne pas parler de responsabilité, de sabotage, etc.
De la CENI.
Donc, parce que le fait de le dire, ça implique que la justice devrait... procéder à des sanctions.
Ou bien que vous avez la...
C'est pour ça que, voilà, de ma position, c'est un peu difficile de le dire.
Monsieur Koulibaly, je voulais également évoquer un mot sur le coup KO du président sortant Kaboré. Son parti appelle cela le Winvuka ou le Takokele. Un score donc de 57,87%, beaucoup plus élevé qu'il y a 5 ans où il avait obtenu 53,49% des voix dès le premier tour. À quoi attribueriez-vous ce bond et cette performance alors que son quinquennat a été quand même marqué par un bilan sécuritaire dit chaotique?
À l'heure actuelle, nous sommes en train, au niveau de plusieurs observateurs, d'essayer d'étudier les déterminants du vote pour savoir à quoi est due cette victoire éclatante du premier coup. Parce qu'on aurait pensé à un second tour au bout duquel le président aurait pu venir vainqueur. Mais du premier coup, on pense qu'il faut essayer de trouver les déterminants et les rechercher de façon fine. Tout de coup, on peut expliquer que probablement les paramètres anciens des élections au Burkina Faso, ils sont que l'image du chef de l'État sortant reste collée à l'image du pouvoir. Donc, pour les zones rurales en particulier, les gens sont tentés de renouveler leur confiance parce qu'ils n'arrivent pas à détacher l'image du président en place de celle d'un candidat. Donc, il y a une confusion à ce niveau. Et un paramètre ancien des élections au Burkina Faso qui ne peut être contourné que par un niveau de conscience politique élevé, une culture politique plus élevée. Peut-être que dans les années à venir, on aura ce paramètre qui va arriver. Mais pour l'instant, la configuration de l'électorat fait que c'est plutôt ce type de paramètres-là qui fonctionne.
Mais Monsieur Koulibaly, est-ce que cette victoire, si elle est confirmée, elle n'est pas aussi due au fait que peut-être les candidats qui étaient en face de Roch Christian Kaboré n'ont pas proposé de nouvelles choses? Peut-être que les offres qu'ils avaient face au président sortant n'étaient pas de taille à rivaliser avec un bilan, vu que lui, il disposait des bilans, même si il est très critiqué, ce bilan, sur le plan sécuritaire.
Oui. Je pense que les candidats en face avaient des chances liées effectivement à ces bilans, dont la sécurité était le point le plus évident, et point évident qui a été confirmé par l'ensemble des programmes et des projets de société de tous les 13 candidats, y compris le chef de l'État sortant. Et c'était le premier point que tous les candidats ont traité, la question de la sécurité, et qui aurait pu être présenté par ses challengers comme étant son point le plus faible.
Mais est-ce qu'ils avaient d'autres choses? Est-ce qu'ils avaient de nouvelles offres? Est-ce qu'ils disaient autre chose que ce que le président sortant disait?
Oui, il y a d'autres choses. Même sur le plan de la sécurité, si vous prenez les deux principaux adversaires qui sont Edu Kongwego et
Zéphirin Diabré,
comme on peut le classer maintenant. Ces deux-là disaient par exemple que pour la sécurité, il faut, en plus de la lutte armée contre les groupes terroristes, il faut envisager l'ouverture des négociations pour essayer de terminer la crise djihadiste.
Avec certains groupes armés.
Avec les groupes armés. À l'inverse, le chef de l'État actuel était catégorique sur le sujet, estime que il n'est pas question d'ouvrir les négociations. Donc déjà, là, il y avait une différence d'offre entre les opposants et le président sortant. Ensuite, sur la question de la réconciliation, qui est un thème également qui est revenu dans tous les programmes des 13 candidats, un peu moins dans celui de Tayrou Bari, ils disent tous qu'il est indispensable de procéder à une réconciliation, mais cette question n'est pas nouvelle parce qu'elle a été évoquée depuis 2017 et on a vu que le pouvoir en place, c'est-à-dire celui du président Kaboré, n'a pas du tout avancé sur le sujet malgré l'existence d'une institution qu'on appelle le Haut Conseil de la Réconciliation et de l'Unité Nationale. Donc on aurait pu au moins avoir la définition d'un profil de réconciliation et du cadre qui aurait servi à cette réconciliation.
Merci.
Et jusque-là, on n'en avait pas.
Merci, M. Koulibaly. Saint-Yves, je propose qu'on écoute Birama Fall, qui est à Bamako. Quelle lecture faites-vous de ces résultats provisoires de la présidentielle au Burkina Faso, qui donne une large victoire dès le premier tour au président Kaboré?
Bon, moi, je constate simplement que la dynamique est la même dans tous les pays de la sous-région. Et en Guinée, Alpha Condé a fait un coup KO. Et en Côte d'Ivoire, Alassane en a fait de même. Et au Mali, ici, en son temps, Ibeka était parvenu à se faire élire. Et au Burkina, quand Christian Kaboré l'a fait, je crois que ce n'est pas une surprise. Devenu pratiquement...
Vous pensez qu'il y a une stratégie qui vise à éviter le second tour de la part des présidents en exercice
et se maintenir au pouvoir?
Liliane, je voudrais demander à Birama, si d'un côté les partis au pouvoir font tout pour éviter le second tour, pourquoi est-ce que l'opposition n'anticipe pas et ne mise pas tout justement sur le premier tour au lieu d'aller en rang dispersé et d'espérer un second tour?
Non, c'est la libre expression du vote. Moi, je ne suis pas vraiment pour qu'on limite le vote. Que l'opposition aille en rang dispersé ou bien qu'il aille en rang groupé, c'est la même chose. C'est qu'évidemment, il y a un recul démocratique. Depuis 90, on parle de démocratie, mais on ne l'applique pas. Personne ne le fait. Les commissions électorales nationales qui sont mises en place sont là pour le pouvoir, parce que tout est mis en œuvre pour que le président en poste vraiment passe dès le premier tour. Et le vote est détourné, et l'achat de conscience est là, et tous les moyens de l'État sont mis à la disposition d'une seule personne. C'est ce qui fait qu'il y a le coup KO.
On va bientôt marquer la pause. Merci beaucoup, Birama. On va donner quelques minutes à Maïmouna pour écouter son premier commentaire aussi, peut-être l'unique même, puisque le temps file très vite, sur cette élection, les résultats de cette élection au Burkina Faso. Maïmouna?
Oui, d'abord, je voudrais rectifier, je suis rédactrice du Média en ligne de Même TV et non Radio Tambara. D'accord. Pour ce qui est des élections au Burkina, mais ce n'est pas une surprise, parce que un président sortant ne peut pas aujourd'hui préparer les élections et perdre les élections. C'est impossible, parce que c'est ce que nous voyons au niveau donc, de l'Afrique de l'Ouest.
Nous avons perdu
Maïmouna.
On va peut-être retourner à notre invité Saint-Yves, et je voulais justement poser une question à notre invité d'ordre général. Hein. Birama parlait tout à l'heure de cette tendance au coup KO, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina, et on ne sait pas ce qu'il en sera bientôt au Ghana, au Niger ou en Centrafrique. Comment appréciez-vous cela, monsieur Siaka Koulibaly? Est-ce que l'opposition, parce qu'on le dit alors que l'opposition, à travers marches et autres formes de mobilisation, semble pourtant avoir du soutien populaire? Monsieur Koulibaly? Saint-Yves?
Monsieur Koulibaly?
Je crois qu'on a perdu monsieur Koulibaly.
On a également.
Koulibaly.
Il est là, monsieur Koulibaly. Siaka Koulibaly, est-ce que vous nous recevez?
Manifestement, non. On va peut-être, Saint-Yves, observer la pause et espérer avoir notre invité en ligne, et ainsi que Maïmouna Diabo en ligne de Niamey, que nous avons perdu alors qu'elle avait commencé à livrer ses commentaires sur ce premier tour, les résultats provisoires de la présidentielle au Burkina Faso, favorable au président Roch Marc Christian Kaboré. Une pause.
Débat BBC Afrique, Africa Radio.
Suite du débat BBC Afrique, Africa Radio, avec notre invité Siaka Koulibaly, analyste politique burkinabé en ligne de Ouagadougou. Et nous avons également deux journalistes avec nous dans cette émission. Il s'agit de Birama Fall, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Prétoire à Bamako, et Maïmouna Diabo, journaliste en ligne de Niamey. Pour écouter ou réécouter cette émission, il suffit de cliquer sur africaradio.com et bbcafrique.com, et venez ensuite nous faire part de vos observations observations et commentaires sur la page Facebook de l'émission facebook.com/débat BBC Africa Radio. Saint-Tiche, nous allons poursuivre avec notre deuxième sujet et c'est le Niger. Saint-Tiche?
Nous avons récupéré Maïmouna. Je pense qu'on peut lui redonner la parole pour qu'elle finisse son intervention. Nous avons encore quelques minutes sur le Burkina Faso, Liliane.
Tout à fait. Donc, Maïmouna, vous êtes là?
Oui, oui, je suis avec vous.
Oui, terminez vos propos, s'il vous plaît.
Ce n'est vraiment pas une surprise parce que on ne peut pas être président, préparer les élections et les perdre. Donc en Afrique de l'Ouest, c'est ce qui se passe et nous avons vu. Et nous savons également que l'opposition politique aujourd'hui au niveau donc du Burkina Faso n'a pas une force parce que du moment où déjà les élections ont été applaudies par les institutions internationales, et par également les acteurs de la société civile burkinabé, donc je me dis que aujourd'hui, l'opposition ne peut que suivre, forcer de suivre la démarche de Roch Marc Christian Kabore. Et un coup KO s'était déjà préparé, c'était prévisible le coup KO. On savait déjà qu'il y aura un coup KO parce que pour éviter un second tour de la présidentielle, parce qu'un second tour, il n'est pas évident que le président soit en bonne position pour être élu.
D'autant plus que l'opposition s'était déjà entendue pour former une coalition contre le président sortant en cas de second tour.
Justement, donc il fallait faire passer le président Roch Marc Christian Kabore au premier tour. Ça, c'est le coup KO. Parce qu'il n'aura pas de chance, ses chances seront limitées au second tour. Avec une opposition qui est convaincue que d'avoir les élections. Donc ça veut dire que ici c'est ce qui se passe et nous savons déjà que le pays aussi est divisé.
Alors nous allons l'actualité nigérienne, Maïmouna, nous allons y venir au deuxième sujet. D'accord. Merci beaucoup. Nous avons récupéré également Liliane, notre grand témoin, Monsieur Siaka Koulibaly. Et si vous permettez, Monsieur Koulibaly, selon les chiffres, Zéphirin Diabré, qui jusqu'alors est chef de file de l'opposition, et cela pourrait changer avec les résultats des législatives, est donc à 12,46%, alors que Eddy Komboigo, du parti de l'ancien président Blaise Compaoré, lui, est à 15,48%. Pour vous, le CDP reprend du poil de la bête. Est-ce que cela augure d'un positionnement pour ce parti pour 2025 déjà?
Oui, on peut dire ça. Parce que de toute façon, le CDP n'a jamais totalement disparu de la scène politique nationale, dans la mesure où dès 2015, après l'éviction de Blaise Compaoré du pouvoir en octobre 2014, le CDP était déjà revenu lors des élections législatives avec 18 députés. Donc cette fois-ci, si les prévisions sont confirmées, ils auraient autour de 25 députés. Donc on peut penser qu'ils ne font que confirmer que le CDP reste une des forces politiques majeures dans le paysage politique national burkinabé.
Mais on ne les a pas trop entendus non plus hein, pendant les cinq premières années du mandat de Kabore, le mandat 1. Est-ce qu'avec ces nouvelles victoires qu'ils engrangent sur le plan national, est-ce que ça pourrait être une opposition qui dérange un peu plus pendant le deuxième mandat?
Je ne pense pas que le CDP soit une opposition turbulente, parce que ce n'est pas l'ADN de ce parti, et plutôt un parti de type électoraliste et de gestion du pouvoir. Il ressemble un peu au PDCI en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas très enclins aux actions musclées dans les genres qu'on peut voir dans d'autres pays. Donc si les chiffres se confirmaient et que le CDP avait la position de chef de file de l'opposition, on pourrait s'attendre probablement à une gouvernance beaucoup plus calme. Alors que même de 2015 à 2020, on n'a pas assisté à grand-chose venant de l'opposition. Donc cela pourrait être encore plus calme cette fois-ci.
Donc vous parleriez d'une opposition républicaine de la part du CDP?
Républicain, ça c'est une autre affaire, parce que le caractère républicain signifie que cette opposition joue le jeu et anime les institutions de concert avec le pouvoir en place, mais en restant dans sa zone, participer au dialogue politique notamment. Et dialogue politique qui a été rehaussé en juillet 2019 par une session très importante qui s'était terminée par une quasi-unanimité sur les 30 points qui avaient été inscrits à l'agenda de ce dialogue politique-là. Donc on se demande si, avec les remous qui ont eu lieu au cours de cette élection, vous savez que premièrement, l'opposition avait voulu contester les résultats et a fini par se...
À prendre acte.
Et à prendre acte comme position finale. Donc est-ce que cela va se poursuivre dans la participation au dialogue politique? Et je crois que le chef de l'État nouveau, ancien nouveau, a bien pris la mesure donc de cette attitude de l'opposition.
Merci.
Parce que son premier discours, il parle de concertation permanente cette fois-ci.
Merci.
Or, on s'attend peut-être que sa gouvernance va peut-être être modifiée et qu'on n'aura plus de concertation entre les forces politiques.
Avant qu'on ne vous perde, M. Koulibaly, j'avais une question d'ordre général sur ces coups chaos qui se multiplient dans plusieurs pays africains. Comment appréciez-vous cela? Est-ce que cela veut dire que les oppositions dans ces pays sont de moins en moins capables de constituer un véritable contre-pouvoir de ceux qui sont en place?
Merci pour cette question. Ça permet effectivement de mettre en avant le rôle et le niveau des oppositions dans nos différents pays, qui montrent que ce sont des acteurs qui ont pour l'affaire politique que l'ambition. Ils refusent de se donner les moyens. Ils sont aujourd'hui des moyens scientifiques dans le monde en ce qui concerne les élections. Donc il y a des questions basiques. Par exemple, chez nous, quand on regarde le déroulement des opérations de vote le dimanche, il y a des irrégularités qui n'ont pas été anticipées par l'opposition. Par exemple, la question des délégués dans les bureaux de vote. On a vu à la télévision une séquence sur le dépouillement à la fin donc des votes, où le président du bureau de vote dévoile le bulletin et dit qui a gagné ces bulletins-là, tant que les délégués ne demandent à vérifier le paraphe, il doit attester que c'est un bulletin valide. Merci. Donc, ainsi, on voit que la qualité des délégués dans les bureaux n'était pas celle qu'il aurait fallu. Mmh. Ensuite, il y a que pour que...
Alors, nous allons y aller rapidement, M. Koulibaly, désolé de vous... Oui, allez-y rapidement, nous allons passer au second sujet.
Pour que les recours devant le Conseil constitutionnel soient valides, il faut qu'ils aient été attestés par des observations portées sur les procès-verbaux. Donc, si les délégués n'ont pas cette connaissance du code électoral et des élections pour faire figurer leurs observations et les réserves sur le PV, devant le Conseil constitutionnel, ces recours-là n'auront pas de consistance. Donc on voit ici, à partir de ces éléments, que les oppositions n'ont pas beaucoup travaillé sur leur conquête du pouvoir.
À la vérification du processus électoral. Sans transition, nous passons au deuxième sujet qui parle également des élections, Saint-Tige, puisqu'il s'agit du Niger. Dans un mois, ce pays organise l'élection couplée présidentielle et législative. Ce sera une bataille de coq, puisqu'aucune femme ne figure parmi les 30 en lice pour le fauteuil présidentiel. Ce fut également le cas en 2016. Si aucun des 30 prétendants à la succession de Mamadou Issoufou ne fait pas le coup chaos, alors il y aura un second tour prévu le 20 février 2021. La candidature du principal opposant, Ama Amadou, a été rejetée par la Cour constitutionnelle suite à sa condamnation à un an de prison dans une affaire de trafic de bébés au Nigeria. Ce scrutin pourrait se tenir dans des conditions tendues parce que depuis 2017, en effet, l'opposition refuse de siéger à la commission électorale et conteste le nouveau code électoral élaboré selon elle sur une base non consensuelle sans sa participation et adopté en juin 2019 par le Parlement. Est-ce que Maïmouna est en ligne avec nous? Elle nous entend? Allô, Maïmouna?
Oui, je vous entends bien.
Voilà, je commence par vous, Maïmouna. Dans quel climat la classe politique prépare-t-elle l'élection du 27 décembre prochain au regard de ce que je viens, du contexte que je viens d'évoquer?
Oui, justement, vous l'avez dit, ça risquerait d'être des élections bouleversées parce que la classe politique aujourd'hui est divisée. Divisée par quoi? Parce que tout simplement...
Liliane, je crains que nous ayons encore perdu.
Je pense que c'est un problème
Maïmouna.
Avec le Niger, Saint-Tiche.
Exactement.
On va peut-être s'adresser à notre invité, M. Siaka Koulibaly. Ensuite, notre confrère. M. Siaka Koulibaly.
Oui.
Voilà une élection au Niger qui risque ne pas être aussi apaisée que celle du Burkina. Un dialogue avait été annoncé il y a un an pour tenter d'apaiser le climat politique. Il est resté sans suite et on est à un mois du double scrutin. On peut s'interroger, non?
Oui, on peut s'interroger sur le processus électoral du Niger, surtout après l'éviction du principal représentant de l'opposition Amadou Amadou. On se demande si l'ambition de dialoguer et d'apaiser le climat politique va connaître une consécration à travers l'élection, même si c'est possible que l'opposition génère un autre candidat pour remplacer Amadou Amadou. Je ne sais pas si c'est encore possible à l'heure actuelle.
Les candidatures sont déjà validées. Ils sont 30 qui vont compétir.
Voilà.
Et le Manafa, finalement, n'a pas de candidat. Le parti de Ama Amadou.
On peut s'organiser autour peut-être de partis alliés et soutenir un candidat qui représente sa sensibilité. Ceci dit, on constate que dans tous les pays de la zone francophone, il faut qu'on mette l'accent sur cet aspect des choses, dans la mesure où on en arrive au niveau de l'analyse politique à voir que... Dès la reprise du constitutionnalisme dans les années 90, les pays anglophones ont connu des processus démocratiques sans heure. Au Ghana et au Nigeria en particulier, ce sont les pays qui connaissaient le plus de coups d'État. Il n'y a pas eu de difficultés liées au processus politique et les élections se sont succédées et l'alternance est opérée. C'est dans les pays francophones plutôt qu'on a, en particulier autour de cette notion du troisième mandat, beaucoup de difficultés. C'est vrai que le Niger s'est particularisé cette fois-ci par le fait que le président sortant n'a pas cherché à se maintenir au pouvoir à travers un troisième mandat. C'est une bonne chose, il faut le noter, il faut créditer la classe politique nigérienne donc d'un bon point à ce niveau. Mais le déroulement du processus peut aussi connaître des remous dans la mesure où on connaît que la classe politique nigérienne est assez dynamique et peut être apporté à faire des manifestations, des contestations également.
Et surtout que cette élection présidentielle, Liliane, sera, on aura dans le starting block, comme on dit, 30 candidats à cette élection présidentielle. Je voudrais demander à Birama Fall, Birama ?
Oui.
Votre commentaire sur ce nombre de candidats à l'élection présidentielle au Niger, 30 candidats ? Votre analyse, votre commentaire?
Ça fait le jeu du pouvoir. Hein. Et c'est vrai que le président sortant ne va pas se représenter, mais il a son dauphin dans la course. Donc autant accepter une multitude de candidatures pour lui donner vraiment beaucoup de chances de passer dès le premier tour.
Dans le but d'arriver à un éclatement au maximum, de voix.
Ah, moi, je constate le coup KO au Niger aussi. Mais il faut qu'on fasse très attention parce que l'exemple du Mali est là, une tâche indélébile qui risquera vraiment d'affecter tous les pays de la sous-région si on ne fait pas attention. On vole les élections, on fait passer le président, on donne la majorité au parti majoritaire, ensuite il y aura une révolution populaire. Et si on ne fait pas attention, l'Afrique francophone va s'embraser à nouveau. Parce que les structures d'organisation des élections telles qu'elles sont tenues ou autres là sont à la dévotion du pouvoir. Alors, les cours constitutionnels n'existent que de nom.
Merci beaucoup Birama. Nous avons récupéré Maïmouna et je voudrais enchaîner sur les derniers mots de Birama. Maïmouna, l'opposition, et Liliane l'a souligné, ne siège pas dans la commission électorale, pourtant elle va aux élections. sur quoi est-ce que cette opposition compte aujourd'hui pour pouvoir faire face aux candidats du parti au pouvoir?
Maïmouna?
Toujours des difficultés à avoir Maïmouna depuis Niamey.
Est-ce que Maïmouna nous entend? Une autre tentative? Non? Saint-Tich?
Non. Non. Alors, une dernière question sur le sujet de ce sujet sur la présidentielle et aussi les législatives au Niger prévues en décembre prochain. Nous avons plusieurs candidats qui sont en lice. Nous avons parlé de ces 30 candidats avec des anciens alliés d'Issoufou, des anciens présidents également et l'ancien poutiste qui a renversé le président Mamadou Tandja. Je voudrais demander à Salou M. Diabo. Siaka Koulibaly. Oui, Salou Diabo, justement. M. Koulibaly, est-ce que ces figures peuvent réellement faire peur au PNDS, le parti au pouvoir?
Je pense que sur le papier, l'ancien président Salou Diabo, par exemple, n'est pas un épouvantail pour le parti au pouvoir. Surtout que ce parti au pouvoir est un ancien parti qui a un fort ancrage dans la population et sur le territoire nigérien. Mais toujours est-il que c'est une élection. Certains paramètres qui ne sont pas maîtrisables par les observateurs extérieurs peuvent jouer en faveur donc de ces personnages-là, notamment le bilan du régime passé et les défis du moment. Il y a cette question donc du terrorisme qui concerne le Niger depuis plusieurs décennies. Les Nigériens, l'électorat nigérien peut penser qu'un militaire, un officier peut-être être un meilleur président face à ces groupes terroristes-là que ne le sont les civils. Donc c'est un paramètre qu'il ne faut pas négliger.
Merci.
Et même si le rapport de force politique électorale n'est pas en faveur de Salou Diabo, par exemple, je prends ce cas-là, il a sa carte à jouer et il a aussi ses chances.
Birama, vous parliez tout à l'heure du système électoral. On pouvait imaginer que l'absence du président sortant qui a choisi de respecter les deux mandats constitutionnels et ainsi que celle du leader de l'opposition, Ama Amadou, fasse de ce scrutin présidentiel une élection très ouverte où chacun a toutes ses chances.
C'est vrai, on peut considérer cela comme étant, parce que les Niger, quand même, ils ont un peuple très mûr politiquement, donc ils sauront faire le bon choix. Ils l'ont déjà démontré. Et en son temps, la Cour constitutionnelle s'est assumée en invalidant la candidature du défunt président. Et je crois que pour cette fois-ci, l'honnêtement, on va profiter
de Ama Amadou, du pouvoir. Il est dans l'opposition.
Voilà, Ama Amadou, l'honnêtement va profiter et les multiples candidats qui sont là-bas, ils vont jouer la carte de l'intérêt. Parce que autant s'approcher du parti qui a le plus de chances de remporter les élections que d'aller en bataille.
Donc vous voulez dire que le candidat Bazoum du PNDS au pouvoir est le mieux placé malgré l'absence de ces deux figures politiques qui ont dominé pendant plus d'une décennie la scène politique au Niger?
Bazoum est très très bien placé. Je crois que déjà, il va profiter des acquis du président sortant. Il a aussi un appareil politique bien implanté sur le territoire nigérien et qui connaissent bien les Nigériens. Et tout le monde sait qu'à la matière, l'arcane politique va beaucoup jouer. Je crois que ce qu'on peut craindre, c'est la violence. Mais le fait que depuis que le principal opposant a été disqualifié, depuis qu'il s'est mis dans un silence total, bon, je ne sais pas ce que ça peut présager, mais déjà, il a fait preuve de fair play. Mais est-ce que les autres petites candidatures là vont essayer de jouer leur jeu? Moi, je ne crois pas.
Merci Birama. Nous allons passer au dernier sujet.
Je voulais juste, si vous me permettez, que notre invité commente 20 secondes cette absence de candidature féminine que j'ai mentionnée. Sur les 30 candidats, il n'y a pas de femmes. En 2016, il y avait 15 candidats sans femmes. Aujourd'hui, le nombre de candidats a doublé et il n'y a toujours pas de femmes. Quelle est votre analyse, vraiment en quelques mots, M. Koulibaly?
Pour le Niger, surpris, parce que généralement c'est une société très phallocratique basée sur le schéma d'une masculinité dominante dans la structure sociale et qui est aussi même acceptée et développée par les femmes. Donc c'est un peu naturel qu'on ne les retrouve pas. Deuxièmement, il faut dire que pour retrouver une femme à la candidature à la présidentielle, il aurait fallu qu'il y ait déjà une figure ou plusieurs figures importantes dans l'animation de la vie politique, ce qu'on n'a pas vraiment constaté.
Merci.
Donc ce n'est pas de façon spontanée qu'on aurait pu avoir une candidature à la présidentielle.
Liliane, nous avons récupéré notre consoeur Maïmouna et je suis bien curieuse de l'entendre sur ce que notre invité, M. Koulibaly, vient d'affirmer en ce qui concerne l'absence des candidatures féminines. Maïmouna ?
Oui, concernant l'absence des candidatures féminines, c'est vrai, depuis 2016, nous n'avons pas constaté, nous n'avons pas eu une seule candidate pour les élections présidentielles. Depuis 2011, où c'était Mme Bayar Gamache qui était candidate aux élections, mais malheureusement, vous avez vu ce qui s'est passé. Mais elles ne sont pas, c'est vrai, elles ne sont pas du tout préparées pour aller affronter les élections présidentielles, mais c'est maintenant qu'elles sont en train de se mettre en politique, de s'asseoir en politique et d'avoir une mainmise sur la politique. Et elles sont plus nombreuses aujourd'hui candidates aux élections législatives locales que présidentielles. Parce que là, jusqu'à présent...
Rebelote. On a eu de la chance.
Rebelote, Santi. Sans transition, le dernier sujet avec vous,
le dernier le Mali. Sujet, c'est le Mali, bien sûr. Nous parlons de ces nominations à la tête des régions. Le Mali qui compte désormais 20 régions et un nouveau découpage a rajouté donc 5 régions aux 15 qui existaient. Des militaires ont aussi été nommés à la tête de plusieurs, de 13 régions spécifiquement. Les 7 autres sont toujours dirigées par des civils. Il n'y a pas eu de réelle communication autour de ces nominations, mais des sources proches du vice-président Assimi Goïta affirment que ces nominations ont pour but d'améliorer la sécurité dans ces régions en proie aux attaques des terroristes. Mais les partis politiques et les associations de défense des droits de l'homme ne sont pas tout à fait d'accord. Birama Fall, nous allons y aller rapidement. Birama, est-ce que 13 militaires à la tête des régions, vous en tant que Malien, ça vous choque?
Moi, ça me choque parce que nous sommes dans un État démocratique quand même, où les partis politiques ont toute leur place. Mais malheureusement, depuis l'avènement de la démocratie en 91, il faut reconnaître que ces partis politiques ont déçu. Et si vous voyez qu'on est arrivé jusqu'à faire chuter Ibeka, qui était à l'entame de son deuxième mandat, sans coup férir, c'est-à-dire que les partis politiques ne jouent pas leur rôle. Les jeunes militaires qui ont quitté les champs de bataille, le centre et le nord, pour venir prendre le pouvoir, et ils ne sont pas prêts à y retourner. Ils n'étaient qu'un groupuscule. Maintenant, c'est un système de partage de gâteaux. Les gens qui n'ont pas participé au coup d'État, il faut les amadouer en leur donnant des postes.
Mais alors, en réalité, vu la situation sécuritaire, le contexte sécuritaire au Mali, est-ce qu'il n'est pas logique justement de nommer des militaires à la tête de régions telles que Gao ou Mopti? On sait que ce sont des régions très, 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 comment dire...
C'est instable, où les attaques se multiplient. C'est d'ailleurs ce qu'expliquent les militaires.
Justement, est-ce que ce n'est pas un argument logique selon vous?
Bon, l'agrément peut tenir, mais Gao, Tombouctou et autres là, il y a des forces internationales qui sont là-bas. Il y a Barkhane, il y a la MINUSMA, il y a d'autres, même les forces maliennes. Je crois qu'on a pu négocier dans l'accord d'Alger et le retour de ces parties-là dans les régions nationales. Et les forces maliennes étaient là-bas, les attaques ont toujours eu lieu. Mais à la veille des élections à venir, parce qu'on a justement pour organiser les élections, si on nomme des gouverneurs militaires dans 13 régions, cela veut dire qu'on est en train de préparer un pouvoir militaire. C'est ce qui choque un peu les associations de défense des droits de l'homme, certains partis politiques qui voient d'un très mauvais œil l'organisation des élections par les militaires.
On parle avec le nouveau découpage régional, qu'il y a désormais 13 militaires qui dirigent les régions contre 7 civils.
Maintenant, à quoi ça sert de former les administrateurs civils? Il y a des gens qui ont été formés pour ça, qui ont toujours géré pour ça, et les militaires viennent subitement, ils reviennent du centre, ils reviennent du nord, ils viennent subitement, ils remplacent tous les préfets, ensuite ils font nommé des militaires à la tête de 13 régions sur les 20.
Moi, c'est une 13 régions, donc Gao, Touadéni et Mopti. Mais Birama, voilà. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le découpage territorial était à dessein?
C'était à dessein parce que c'est un texte qui existait depuis longtemps. On ne parvenait pas à opérationnaliser ces régions-là. Les militaires en ont profité pour placer leurs hommes. Est-ce à dire qu'ils sont plus compétents que les civils qui n'ont pas nommé? Moi, je ne crois pas.
Peut-être qu'ils sont plus téméraires. Peut-être qu'ils sont plus téméraires et plus courageux de leur...
Les administrateurs civils sont téméraires. Mais c'est qui organise les élections, c'est eux qui gagnent. Malheureusement, c'est les militaires, non seulement qui vont contrôler le CNT, qui contrôlent le gouvernement, qui vont contrôler tout le gouvernement.
Birama, vous désapprouvez ces nominations de militaires. Pourtant, l'armée a le plein soutien de Mahmoud Diko, qui a dirigé la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta.
Non, c'est vrai, Mahmoud Diko a dirigé la contestation, mais ce n'est pas Mahmoud Diko qui les contrôle. Mahmoud Diko, il représente.
Mais
quoi?
Ils soutiennent pleinement les actions de l'armée. On a suivi la semaine dernière Issa Kaoudim.
Mais moi, je ne le partage pas. C'est un recul démocratique. Mais recul, on s'est battu en 91 pour ça. On s'est battu en 2012 pour ça. Et il ne peut pas venir remettre tout en cause. Cela ne veut pas dire que les militaires sont plus compétents que ces administrateurs civils qui ont étudié pendant de longues années pour pouvoir gérer ces régions. Moi, je ne crois pas.
Merci beaucoup, Birama. Liliane, nous écoutons M. Koulibaly sur cette question. M. Koulibaly, ces craintes émises par la société civile et les partis politiques comme quoi les militaires voudraient garder la mainmise sur le Mali, est-ce que vous le comprenez?
Oui, je comprends et je suis de très près l'évolution de la situation politique au Mali. Et je fais aussi partie de cette catégorie de démocrates africains qui ne sont pas très favorables à la présence des militaires à la tête des États et des institutions du pays. Mais dans le cas spécifique du Mali, je suis partagé entre ces convictions idéologique et la situation réelle qui prévaut. À mon avis, la seule façon de contrebalancer les desseins ou les ambitions des militaires de transformer le pays en un système militaire, ce serait que l'opposition politique et la société civile montent un peu plus au créneau, y compris sur les actes même de la transition, et surtout faire en sorte que au moment de la fin de la transition et de l'élection qui va arriver, et on puisse revenir à une situation conventionnelle, c'est-à-dire des civils et l'armée rejoint son rôle classique de sécurité, de défense du territoire.
Et monsieur Koulibaly, pardonnez-moi, le temps, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que l'appétit de l'armée pour des postes civils ne risque pas de saigner davantage l'armée dont l'effectif actuel ne semble pas capable d'assurer la sécurité du Mali?
Oui, il y a le fait que cet impératif de lutter contre les groupes armés irréguliers est une réalité au Mali. Donc, les militaires à des postes avancés de l'administration publique, ça peut peut-être faciliter l'action de l'armée dans la lutte contre le terrorisme. C'est indéniable. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut veiller à ce que la classe politique et la société civile s'assurent qu'après la transition, parce que c'est une situation exceptionnelle où on peut effectivement déroger aux règles habituelles en nommant les militaires à la tête des collectivités territoriales. Mais après, il faut que le nouveau pouvoir...
Est-ce que ça fait aussi moins d'hommes pour l'armée? Parce que je suppose que les responsables de l'armée qui sont nommés, ce sont des hauts gradés qui ont souvent des décisions importantes à prendre dans l'orientation de la lutte contre le terrorisme, par exemple.
Je pense que l'idée de nommer les officiers supérieurs à la tête des circonscriptions territoriales, c'est de dire qu'il faut coupler l'administration du territoire avec la lutte armée. Donc ça peut faciliter, si c'est le même personnel qui retransmet l'administration du territoire et les ordres de l'état-major général. Donc c'est peut-être cette idée-là qui a été mise en avant.
Merci.
Maintenant, il faudrait faire en sorte que ce soit une période exceptionnelle, qui soit limitée dans le temps, et qu'on puisse revenir par la suite à une situation normalisée.
Après la transition.
voilà, après la transition.
Saint-Tich, c'est le moment que vous aimez beaucoup. C'est Didier Ladislas Lando qui va nous livrer à présent les réactions et questions de nos auditeurs laissées sur la page Facebook de l'émission.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Saint-Tich, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Burkina, Jean Zounou estime que la réélection de Roch Bakrissi en Kaboré n'a rien de surprenant. Pour notre internaute, en Afrique, il est rare de voir un président sortant organiser une élection et la perdre. Niger, pour Yougou Wapi Wapi, la présence ou non de Ama Amadou à la présidentielle ne change rien. De son côté, Charles Bazema recommande à l'opposition nigérienne de présenter un candidat unique face au candidat de la mouvance présidentielle. Car aller à l'élection en rang dispersé revient à donner la victoire gratuitement au parti au pouvoir. Mali, Achédik Théodore de N'Djamena estime que la nomination des militaires comme gouverneur est une bonne stratégie de guerre contre le terrorisme. Mais seul le temps nous dira si ces derniers seront à la hauteur de la mission qui leur est confiée. Bon week-end à tous!
Bon week-end à vous également, Didier Ladislas Lando. Monsieur Siaka Koulibaly, est-ce qu'en une minute, vous pouvez faire une synthèse?
Oui, synthèse aux trois pays que nous avons couverts par cette émission et parler d'une évolution de la démocratie et de l'état des droits dans ces pays en lien avec le développement durable qui passe par la stabilité. Et on peut dire que pour ces trois pays, même si au Burkina Faso et au Niger, les processus électoraux semblent pacifique, il semble qu'il serait plus difficile d'accéder au stade donc du développement durable, c'est-à-dire consensuel par tous. Au Mali, ils sont encore dans une phase provisoire, une phase de parenthèse. Donc, il faudrait observer déjà le processus de cette transition avant que ce pays ne renoue avec la normalité constitutionnelle et reprenne le chemin du développement ouvert pour tous.
Merci beaucoup à vous, Siaka Koulibaly. Vous étiez notre grand témoin, activiste des droits de l'homme et de la démocratie au Burkina Faso. Merci à notre consoeur Maimouna Diabo, journaliste et rédactrice en chef nigérienne, que nous n'avons malheureusement pas pu entendre pendant cette émission longuement en raison des difficultés techniques. Merci à vous, Birama Fall, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Prétoire à Bamako au Mali, chargé de production Didier Ladislas Lando, réalisation à Paris Hugo Vallière, à Dakar Patrick Tévy. Et vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur bbcafrique.com et africaradio.com. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et réactions sur la page Facebook facebook.com/débat BBC Africa. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, Saint-Tich.
Avec le même plaisir, toujours Liliane.
Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.